Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix est libre, une émission hebdomadaire de l'association Picassoft, qui s'est donnée pour mission de sensibiliser et de former les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique, d'héberger des services web respectueux de la vie privée, et de promouvoir une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Et vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur radio.picassoft.net. Aujourd'hui, on va parler des versions payante de logiciels libres, et on va essayer de discuter pour savoir si c'est plutôt un business model qui serait nuisible à l'éthique du libre ou une véritable financement, solution de financement du logiciel libre. Donc pour ce faire, je suis avec Kian aujourd'hui. Salut Kian.
Salut.
Kian, que c'est la première fois qu'on te reçoit dans cette émission et c'est super chouette puisque tu étais là au tout début de Picassoft, donc presque 4 ans après, toujours dans la place. Et donc je vais te laisser introduire un petit peu le sujet qu'on va traiter aujourd'hui.
Merci beaucoup. Donc comme tu l'as dit au début, on va parler aujourd'hui d'un mode de financement de logiciels libres qui existe. Et pour cela, je vais revenir un tout petit peu en arrière et planter un peu le contexte. En réalité, il y a un peu plus d'un mois, alors c'était le 15 septembre pour être extrêmement précis, il y a une personne de l'association qui a posté un message sur notre Mattermost et qui voulait nous parler du modèle économique de l'entreprise Cozy Cloud qui propose le logiciel Cozy, que vous connaissez peut-être. Et pour résumer très grossièrement, leur modèle était économique est qu'une partie du financement, il se fait en vendant certaines fonctionnalités à des entreprises, et ces fonctionnalités ne sont donc pas intégrées dans la version open source et libre du logiciel. Alors pour rappel, un logiciel libre, c'est un logiciel qui va nous assurer 4 libertés fondamentales. La première, c'est la possibilité de l'utiliser de la manière que l'on souhaite. La seconde, c'est la possibilité d'étudier son fonctionnement. Ensuite, la liberté de le modifier, et enfin la liberté de le redistribuer à l'identique ou avec les modifications que l'on a apportées. Et le modèle de financement dont il est question aujourd'hui, et qui est donc celui de Cozy Cloud, il consiste à distribuer une version qui est dite communautaire, qui va répondre aux exigences et aux principes du logiciel libre, et à vendre à côté une version qu'on va appeler généralement la version entreprise, qui va inclure une partie du code qui est libre, mais aussi des parties du code qui sont non libres. Et par non libre ici, on va entendre qu'elles ne sont pas forcément ouvertes, mais qu'il faut payer une licence pour pouvoir l'utiliser. Par exemple, c'est le cas du logiciel Mattermost, qu'on va beaucoup utiliser en exemple d'ailleurs aujourd'hui, et c'est un logiciel qu'on utilise à Picassoft dans sa version libre, bien entendu. Alors, suite au message qu'on a reçu, il y a une discussion, un échange qui s'est lancé sur le modèle de Cozy Cloud, et en fait, on s'est rapidement rendu compte qu'au sein de l'association, on n'était pas toutes et tous d'accord sur la vertu de ce modèle, et on s'est dit, suite à la discussion, qu'il serait sans doute intéressant de proposer une retranscription de cette discussion dans une de nos émissions de radio. Ça aurait été l'occasion, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, de mettre à plat les différents arguments qu'il y a eu et de montrer le cheminement de nos différentes réflexions et donc de partager cela avec le plus de monde possible. Alors, pour cette discussion que nous allons faire avec Quentin, on va chacun adopter un rôle, l'un plutôt pour, l'autre plutôt contre ce mode de fonctionnement. L'idée étant de vous retranscrire, parfois certes en forçant le trait, les différents arguments que nous avons échangés au sein de l'association. Et ce que je propose, c'est donc de laisser la parole à Quentin pour initier cette discussion qui, de son côté, adoptera une position qui est plutôt contre ce modèle de financement.
Eh bien, carrément, donc c'est parti pour la discussion. Donc le premier argument qui peut venir à l'esprit quand on entend ce modèle de logiciel, c'est un argument qui va s'inscrire un peu dans la veine de la pureté du libre, on va dire. Voilà, c'est quelque chose qui corrompt complètement le logiciel libre, au sens où, de toute façon, c'est une démarche marchande qui va exploiter les valeurs du libre uniquement à des fins économiques. Donc dans ce cas-là, on pourrait se dire que le libre, c'est une étiquette, un faire-valoir qui permet de vendre du logiciel qui, au fond, ne l'est pas. Donc en fait, c'est globalement la même idée que les logiciels freemium. Donc vous savez, c'est des logiciels qui ont une version gratuite avec des fonctionnalités très limitées. Et puis à chaque fois que vous voulez faire quelque chose qui est vraiment utile ou qui est vraiment intéressant, eh bien, va vous demander d'acheter l'intégralité du logiciel pour obtenir ces fonctionnalités. Donc ça serait le même principe qu'un freemium, mais appliqué au logiciel libre Canva en poupe. Donc même dans le cas où le code de la totalité du logiciel serait rendu disponible publiquement, donc ce qui permet de cocher quelques cases de ce qu'on appelle communément l'open source, donc on peut aller voir le code pour vérifier qu'il est bien sécurisé, l'ensemble des personnes peut éventuellement contribuer, pointer les défauts, eh bien, c'est pas suffisant. Parce que le logiciel libre, c'est pas seulement du logiciel open source, de la performance et de la sécurité, c'est aussi des valeurs, c'est aussi une éthique qui vise avant tout à co-construire des communs qui sont et utilisés, mais aussi gérés par toutes et tous, sans distinction. Et en particulier, des communs, ils visent bien sûr pas à enfermer les utilisateurs dans des contraintes marchandes où il faut globalement avoir du fric pour pouvoir profiter d'une fonctionnalité qui est utile.
Alors, je comprends, mais en réalité, je suis pas tout à fait d'accord. En fait, ce modèle économique, je ne pense pas qu'il empêche l'existence d'un logiciel libre. Je pense au contraire qu'il va financer et permettre le financement de ce logiciel. Et il faut bien noter qu'on reste parfaitement libre d'utiliser la version libre donc du logiciel, avec exactement les mêmes libertés que pour tout autre logiciel libre. De ce côté-là, il n'y a aucun changement. Et en fait, même en extrapolant un peu, on pourrait voir ça comme deux logiciels différents. Le premier, donc, qui est le logiciel libre, et le second, qui donc ne l'est pas, est simplement un logiciel propriétaire qui se base sur un logiciel libre, ce qui est tout à fait permis par la plupart des licences libres. Et on pourrait même imaginer, et il se trouve que d'ailleurs ça existe, que ce soit même une autre entreprise complètement différente qui va proposer la version payante. Sauf qu'ici, on est dans un modèle qui est un peu plus vertueux que ça. Ce n'est pas une autre entreprise qui va piller le travail qui a été fait sur le logiciel libre pour le revendre et garder les profits. C'est réellement l'entreprise qui vend la version payante qui est aussi celle qui finance le développement du logiciel libre. En fait, c'est presque comme une sorte de campagne de dons où les personnes qui veulent certaines fonctionnalités permettent de financer pour la communauté. Mais ici, on s'adresse plutôt à des entreprises qui vont donc financer le logiciel pour le reste de la communauté.
Alors, bon, là-dessus, on est complètement d'accord sur le fait que le logiciel libre, c'est pas magique. Les gens développent pas gratuitement sur l'ensemble de leur temps libre des logiciels libres. Hein, il faut quand même manger à un moment. Donc, effectivement, il faut financer le logiciel libre. Mais de là à dire que c'est presque comme une campagne de dons, c'est peut-être un peu exagéré dans la mesure où, en général, quand tu donnes à une entreprise qui fait du logiciel libre, par exemple, bah, tu t'attends à avoir une sorte de rétribution, à pouvoir profiter d'une partie des fonctionnalités. Or là, bah, les personnes qui veulent certaines fonctionnalités et qui n'ont pas les moyens, elles sont bloquées. Et les personnes qui ont les moyens, mais qui veulent pas particulièrement des fonctionnalités, elles vont pas financer. Donc en fait, c'est là où il y a un espèce de risque d'asymétrie. Parce que on va avoir des utilisateurs qui vont développer gratuitement des fonctionnalités en contribuant, hein, puisque ça reste en tout cas, une partie du logiciel reste libre. Donc ces parties développées par les utilisateurs vont être libres et vont servir à tout le monde. Mais ces fonctionnalités, eh bien, elles pourront servir de faire valoir à l'éditeur qui pourra vendre encore mieux sa version payante aux entreprises et en quelque sorte profiter du travail gratuit des contributeurs et d'ailleurs réserver la plupart des développements qu'il fera ultérieurement pour les entreprises. Donc finalement, oui, on pourrait se dire que c'est une sorte de campagne de dons des entreprises qui ne servira qu'aux entreprises. Donc là, on ne peut pas trop parler de campagne de dons. Moi, en fait, ce que je vois là-dedans, en tout cas le risque que je vois là-dedans, c'est à peu près la même chose que les joueurs et les joueuses qui vont développer gratuitement des mods pour les jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plutôt apprécié des éditeurs en général, même si en fait, dans le droit, c'est illégal, parce que ils vont faire des mods qui sont super. Donc quand on dit un mod d'un jeu vidéo, hein, c'est une extension qui rajoute des fonctionnalités. D'une part, les autres joueurs vont en profiter, mais au final, c'est l'éditeur qui gagne. On pourrait dire que les joueurs gagnent, mais c'est vraiment l'éditeur qui gagne. Parce que ça va lui permettre de plus vendre son jeu, etc., etc. Et puis finalement, on n'a pas... les joueurs n'en retiennent pas grand-chose. À part récupérer la fonctionnalité, mais ça reste du travail gratuit, c'est ça que je veux dire. Donc tant que les éditeurs sont financés uniquement par les entreprises, bah, y a un risque que les contributeurs et les utilisateurs de la version libre soient lésés. Donc moi je me dis, en fait, il semblerait qu'il y ait plus de contraintes qu'autre chose avec ce modèle de financement uniquement par les entreprises. Et donc tu parlais de campagne de don, bah, autant se baser directement sur le don ou le financement participatif pour construire une version qui soit complètement libre.
Ok, alors effectivement, peut-être que la comparaison avec une campagne de dons était peut-être un peu exagérée, effectivement. Alors je pense que dans ce que tu soulèves, il y a deux sujets qui sont distincts. Il y a d'un côté l'accès aux fonctionnalités payantes, qui du coup est réservé aux personnes qui ont donc la possibilité de se les payer. Et il y a de l'autre côté le fait qu'il y ait des personnes, ou en tout cas on va dire plus globalement la communauté, qui va contribuer au code libre de manière gratuite pour l'éditeur. Effectivement, il y a un risque d'exploitation en fait de ce travail-là. Alors, pour le second point, par rapport au fait que la communauté ou d'autres personnes qui contribuent, elles puissent se sentir lésées, Je pense que c'est le même problème, quelle que soit l'entité qui va maintenir le projet. Que ce soit une entreprise, un collectif, une personne seule, ce n'est jamais toute la communauté qui a les droits d'écriture sur la base de code. Des désaccords peuvent survenir, que ce soit donc pour des raisons économiques, un peu comme ici avec des entreprises ou non. Et comme c'est un logiciel libre, ben les personnes qui sont en désaccord, elles sont complètement libres de forquer le projet, de partir sur une nouvelle base de ce projet, d'en faire un logiciel différent. Ce sont d'ailleurs des choses qui sont déjà arrivées. Et parfois même, c'est lorsque les gens forquent le logiciel que le fork devient plus populaire. C'est le cas par exemple de Nextcloud, qui est très populaire aujourd'hui, qui est en réalité un fork qui était basé à la base sur OnCloud, et des divergences ont fait que Nextcloud s'est plus développé suite à sa séparation du projet OnCloud. Par rapport au premier point et aux contraintes qui sont plus économiques de ce modèle, je ne pense pas qu'elles soient vraiment un problème. Alors, on en vient vraiment à la question du financement du logiciel libre ici, et comme toute activité, un logiciel libre, il a besoin d'être financé. Bien évidemment, on parle vraiment de financement, comme tout travail qui mérite d'être financé. On parle pas de rentabilité ou de profit. On fait bien la différence entre les deux. Et je pense que c'est un sujet très vaste, le financement du libre, mais je pense que le modèle du financement par la communauté ou par les dons, qui se ressemble beaucoup, il se l'applique bien lorsque l'on va parler d'une association ou d'une personne qui propose de son temps personnel. On pense par exemple aux campagnes de dons à succès de Framasoft pour financer certains logiciels comme Peertube ou Mobilizon. C'est possible parce que si le financement, pour une raison ou une autre, il se stoppe de manière temporaire, ce qui est possible vu qu'on a affaire vraiment à la volonté des gens de donner, et ben dans ce cas-là, la personne ou l'association, elle peut simplement réduire ou arrêter temporairement son activité de développement si elle n'a pas la possibilité de rémunérer correctement les personnes qui le font, ou alors les gens vont se mettre à le faire de manière plus bénévole. Par contre, c'est quelque chose qui n'est pas du tout possible pour une entreprise, parce que dans ce cas-là, comme elle est liée à des obligations économiques et comptables légale de toute entreprise, dans ce cas-là, elle va simplement cesser son activité définitivement, parce qu'on imagine mal une entreprise qui fonctionne sous la forme d'un accordéon, on dirait, où pendant quelques mois, il y a de quoi rémunérer les personnes qui développent, puis ensuite elles peuvent plus, donc on se met en pause, puis ensuite on peut de nouveau, etc. Ça semble compliqué, et dans ce cas-là, l'entreprise, elle n'aura pas d'autre choix que d'arrêter le développement du logiciel libre.
Là, pour le coup, je peux qu'être d'accord avec toi dans la mesure où, effectivement, si t'es salarié d'une entreprise qui produit du logiciel libre et que tu t'attends à pouvoir manger tous les mois, y a un moment où si ça varie uniquement en fonction des dons et que t'es pas capable d'assurer la pérennité des dons, ça va vite devenir compliqué. Mais à ce moment-là, on pourrait tout simplement s'interroger, est-ce que c'est pas le fait même d'avoir des entreprises portent les logiciels libres, qui soient le problème, qui portent le développement du logiciel libre en lui-même, et non pas, comme on pourra en parler plus tard, des activités de support, d'hébergement, etc. Parce que une entreprise, par défaut, hein, sans garantie supplémentaire, elle a aucune raison de juste permettre simplement, avec des guillemets, à ses salariés de vivre, c'est-à-dire de pouvoir manger sur tous les mois, quoi, ou plus, mais peu importe. Elle peut très bien se dire, ok, je fais du libre, mais tout en ayant des objectifs très traditionnels de croissance, tout en ayant des mécanismes d'actionnariat, etc., ce qui va certainement pas, à mon sens, aider à prendre des bonnes décisions dans le sens de la construction de commun, ce qui, me semble en tout cas, est le projet politique du libre. Donc aujourd'hui, les GAFAM, ils font du libre, hein, la plupart des bibliothèques de code, donc des petits morceaux de code réutilisables qui sont faits pour le web, ça vient de chez Google, ça vient de chez Facebook, hein, c'est complètement omniprésent. L'Inagora, c'est une entreprise qui est en très forte croissance et puis qui fait du libre. Mais voilà, moi je trouve que dans tous ces cas, le libre, il est instrumentalisé pour asseoir un monopole, pour imposer une technologie particulière, ou comme je l'évoquais tout à l'heure, pour prendre le contrôle des standards du web. On sait qu'aujourd'hui, même d'un point de vue stratégique, c'est quasiment impossible d'imposer une technologie du web si elle n'est pas libre. C'est vraiment virtuellement impossible. Je veux dire, c'est plus à la mode, c'est plus ce qui se fait. Mais pour autant, c'est pas parce que on fait quelque chose qui légalement relève du libre, que politiquement il relève les communs. Et en tout cas, je pense que dans le libre, c'est bien les communs qu'il s'agit de porter en tant que projet politique. Donc peut-être que le fait même qu'une entreprise avec des actionnaires et qui veut générer de la croissance gère des logiciels libres, c'est ça le problème.
Alors, effectivement, alors pour le coup, je suis complètement d'accord avec ce constat. Le logiciel libre n'est pas une finalité en soi, et ce n'est pas parce qu'une entreprise fait du logiciel libre ou même du libre dans de l'art ou de la culture que c'est une entreprise qui va porter un projet politique qui correspond au libre. Ça, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ça. Et je serais même d'accord, et c'est plus large que juste le libre, pour souligner que c'est dommage que ce soit des entités d'intérêt privé, ce que sont les entreprises et les associations aussi d'ailleurs, que ce soit des entités d'intérêt privé donc qui contribuent à un intérêt collectif, c'est-à-dire au logiciel libre ou au commun de manière générale. Mais ici on parle plus du logiciel libre précisément. Cela dit, à mon avis, ça n'empêche pas qu'il y ait des entreprises qui aient un fonctionnement économique ou démocratique qui soit sain. Malheureusement, là je pense qu'on va, ça nous ferait sortir du sujet, mais je pense sincèrement que c'est le fonctionnement de nos sociétés qui sont, et ça c'est un secret pour personne, mais qui sont vraiment dans une idéologie capitaliste néolibérale, c'est vraiment ce fonctionnement-là de nos sociétés qui vient corrompre le modèle. Dans l'exemple qui est donné, c'est pas tellement le modèle qui n'est pas bon à mon sens, c'est-à-dire qu'on pourrait vraiment avoir des entreprises. Et c'est d'ailleurs le cas, hein, donc quand j'essaye de m'imaginer ma société idéale, utopique, un peu dans la tête, la société dans laquelle j'aimerais vivre, dans cet imaginaire-là, il pourrait vraiment y avoir des entreprises qui vont adopter ce modèle de financement pour porter du logiciel libre, sans pour autant qu'il y ait les déviances que tu désignes. Donc, effectivement, dans la pratique, ça reste discutable, mais c'est pas une fatalité du modèle, à mon avis. Par contre, je pense que même dans nos sociétés actuelles, qui sont donc largement améliorables, ça, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, mais même dans nos sociétés actuelles, ce modèle, il peut fonctionner correctement. En fait, je pense que les entreprises qui vont adopter le modèle de financement avec une version libre et une version non libre du logiciel, elles permettent de financer du logiciel libre d'une manière qui me semble intéressante, c'est-à-dire en allant taper dans le portefeuille d'autres entreprises. Alors, c'est un constat largement partagé, je pense, mais il est sûr et certain aujourd'hui que, en tout cas d'expérience, puis on le sait, une quantité énorme d'entreprises, en particulier dans l'informatique ou le numérique, mais pas que, il y a beaucoup d'entreprises qui reposent sur des logiciels libres, sans forcément, et voire même très rarement, elles le font très rarement, c'est-à-dire de soutenir les personnes qui développent ces logiciels. Et on pourrait presque dire, du coup, les entreprises... dans ce cas-là, elles exploitent le fait que des gens développent du logiciel libre. Et en fait, ce modèle-là, je trouve qu'en proposant des fonctionnalités qui vont intéresser spécifiquement des entreprises, ça va donner une incitation, en fait, plus qu'une incitation, presque une obligation à payer pour le logiciel qui va être utilisé, et donc à financer du logiciel libre. Alors, on est d'accord, là, enfin, sans doute que c'est ce que tu pourrais me rétorquer, mais c'est vraiment plus un bout de scotch qu'une vraie solution. C'est vraiment pour pallier au fonctionnement de nos sociétés actuelles. Mais je pense que tant qu'on ne se débarrassera pas du contexte de la société capitaliste dans laquelle on est actuellement, je vois mal d'autres manières d'aller chercher de l'argent auprès des entreprises pour financer du libre.
Alors, en vrai, je trouve que c'est une manière très intéressante de voir les choses, puisque dans pas mal de conférences qui ont été données, il y a toujours cette histoire de, en gros, le logiciel libre s'est fait niquer parce qu'il y a des entreprises qui l'ont récupéré, ont construit des produits par-dessus qui, eux, ne sont pas libres, et qui, avec leur énorme force de frappe, notamment financière, publicitaire, etc., avec des levées de fonds, avec tous les mécanismes financiers qu'on connaît d'habitude, ont réussi à les imposer. Sans jamais finalement vraiment rétribuer aux personnes qui l'ont développé, donc en étant comme des sangsues. Donc effectivement, on pourrait se dire, ouais, c'est quelque part un moyen de récupérer un petit peu l'argent du portefeuille des entreprises et de continuer à développer le logiciel libre et puis à faire manger des gens qui le développent. Donc ça c'est sûr et certain. Mais le fait que ce financement, d'ailleurs on y reviendra sûrement un peu plus tard, mais ils viennent exclusivement des entreprises, ça peut créer des frictions entre la communauté du libre, qui est de la partie libre, et puis ouais, les entreprises qui, elles, ont des intérêts particuliers. Donc au final, ce que je veux dire, c'est que ça va plus avoir tendance, à mon avis, à nuire à la communauté qu'autre chose. Donc dans ce cas-là, on pourrait se dire, les entreprises, elles pourraient en plus essayer de chercher d'autres sources de financement. Donc effectivement, là, c'est la méthode dont on parle depuis tout à l'heure, elle permet de faire financer le logiciel par des clients qui sont dans des entreprises, mais il y a d'autres modèles qui permettent de proposer un logiciel qui serait complètement libre pour tout le monde. Alors, j'ai bien conscience que le financement du logiciel libre, c'est un truc énorme hein, comme sujet. Il y a des rapports, des livres Brand L'April, il y a même des bouquins entiers dessus, donc on va pas faire une description exhaustive des modèles de financement, mais on peut citer quelques exemples de modes de financement qui ont bien fonctionné aujourd'hui. Alors, on a vu que le modèle du don, il avait ses limites. Alors, c'est des limites qui sont pas intrinsèques, je veux dire peut-être culturelles, dans la mesure où on est plutôt habitué à, par exemple, utiliser des services web gratuits et payer par nos données et nos comportements de consommation qui vont être induits par la publicité, etc. de ces données, donc pas payer avec de l'argent directement. Mais on trouve quand même des exemples de logiciels d'excellente qualité développés uniquement à partir des campagnes de financement participatif. Donc on pense aux excellents Peertube et Mobilizon, hein, qui ont eu un très bon succès et qui sont des excellents logiciels. On a aussi Nextcloud, tu l'as évoqué, Kian, c'est un logiciel qui est vraiment énorme, hein, qui est très très utilisé, qui est entièrement libre, avec une entreprise, pour le coup, derrière, qui tire en gros hein, un tiers de ses revenus de missions de consulting pour des entreprises, des administrations, etc. Et puis deux tiers de support, donc le support ça va être de l'aide, du développement de nouvelles fonctionnalités par exemple, qui seront financées par des entreprises extérieures, mais qui seront reversées dans la version libre. Donc c'est un modèle qui est adopté par pas mal d'entreprises. Hein. Il me semble aussi que Red Hat fonctionne sur un modèle similaire. Red Hat, c'est peut-être l'exemple le plus énorme, je pense, qui existe, mais voilà, tout est libre. Et puis, un autre truc qui existe, c'est Kélis, donc qui édite le logiciel Scénarii, donc qui permet de faire c'est une chaîne éditoriale pour faire de gérer des documents, de l'ingénierie documentaire, disons, qui va se financer en proposant de l'hébergement, c'est-à-dire qu'ils vont louer un accès au logiciel qui est hébergé directement sur l'infrastructure de Kélis. Donc on parle de software as a service, hein, c'est globalement ce qu'on retrouve à chaque fois qu'on consulte un service sur internet, un client web, des choses comme ça. Ils vont vendre aussi de la formation, et puis encore une fois, du support autour de leur logiciel. Donc on voit qu'on pourrait au final diversifier les sources de financement pour pas seulement dépendre des entreprises qui vont avoir des intérêts à garder les fonctionnalités payantes pour elles.
Alors effectivement, là je pense que tu marques clairement un point. C'était sans doute peut-être une exagération de penser que c'était que le modèle dont on parle est un très bon modèle pour le financement auprès d'entreprises. Effectivement, comme tu le dis, il y en a d'autres. Ça serait très long peut-être même de tous les détails exactement comme tu me le dis. Il fonctionne bien, peut-être mieux, mais à mon avis, ça reste dépendant du type du logiciel et peut-être qu'on pourrait faire autrement, mais par exemple, dans le cadre du logiciel Mattermost qu'on a déjà évoqué tout à l'heure et qu'on utilise à Picassoft, certains de ces modes de financement me sembleraient compliqués. Par exemple, le fait de proposer Mattermost sous la forme d'une offre SaaS, donc Software as a Service, pardon.
Ah, me dis depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on dit Mattermost, mais peut-être pour cerner, c'est vraiment un truc de discussion instantanée, globalement, pour s'organiser en fonction des groupes, c'est très utile dans des équipes, enfin voilà, quoi, c'est...
Effective
à Slack, c'est peut-être bien de voilà.
Effectivement, c'est exactement ça. C'est justement ça. C'est vraiment un logiciel qui se pose comme une alternative à Slack pour les personnes qui connaissent. Donc du chat structuré en différents espaces par équipe, etc. Donc c'est un logiciel que propose d'ailleurs Picassoft dans ses services depuis le début de l'association d'ailleurs. Et donc Ce logiciel-là, il serait difficile de le proposer sous la forme d'une offre en software as a service, c'est-à-dire de proposer par l'entreprise Mattermost, donc qui édite le logiciel, d'héberger le logiciel pour ses clients. Parce qu'en réalité, comme ce logiciel, il se positionne comme une alternative à Slack et que l'argument principal pour utiliser ce logiciel est de dire qu'il donne la capacité d'auto-héberger ses propres communications, ce qui peut être très sensible pour une entreprise, par exemple une entreprise qui aurait une forte concurrence, qui veut vraiment garder au maximum ses conversations internes sur sa propre infrastructure. C'est un argument important, c'est l'argument principal de ce logiciel. Et pour l'entreprise Mattermost, en tout cas, ce serait dénaturer le logiciel que de le proposer en hébergement as a service, en SaaS, selon eux. Alors, c'est discutable. Très honnêtement, je pense que ça serait même pas si bête que ça, au final, qu'ils proposent ce genre de choses. Mais il faut admettre que, de leur côté, dire que proposer leur logiciel sous la forme d'un hébergement géré par eux-mêmes directement pour leurs clients, il faut admettre que c'est un argument qui se vaut, que ça soit quelque chose qui dénature le produit. Ça, on peut le comprendre. De la même manière, il y a des logiciels qui sont complexes, comme Nextcloud ou Scénarii que tu as évoqué. et qui ont des fonctionnalités du coup qui demandent un haut niveau technique, en tout cas dans la manière de le développer, de les utiliser. Et donc on peut imaginer dans ces cas-là effectivement que le support soit une bonne piste. Si on en revient à l'exemple de Mattermost par exemple, c'est un peu plus compliqué. Pas que je souhaite minimiser le travail qui est fait par les personnes qui développent ce logiciel, mais ça reste un outil certes très joli, mais un outil qui permet simplement d'afficher dans une interface web des messages qui sont stockés directement dans une base de données. Et dans ce cas-là, le besoin en support me semble assez faible, ou alors ça sera le cas pour une poignée d'entreprises, par exemple, qui voudraient déployer ça à une échelle énorme avec des dizaines de milliers ou centaines de milliers d'utilisateurs, ou par exemple avec des contraintes de haute disponibilité, par exemple. Mais là, on parlerait d'une poignée d'entreprises qui, je pense, ne permettrait pas de financer la totalité du développement d'un logiciel de ce type. Cela dit, pour moi-même contrebalancer un peu ce propos, faut noter que souvent il y a plusieurs modes de financement en fait qui sont faits, même pour des entreprises comme Mattermost donc qui proposent des fonctionnalités en logiciel libre et d'autres dans une version payante. Par exemple, dans la licence payante de Mattermost, en plus des fonctionnalités qui sont donc des fonctionnalités privées. Il y a des fonctionnalités qui sont, un service de support qui est proposé. Et malheureusement, je pense que s'il n'y avait que ce service de support-là qui était proposé, il y aurait beaucoup moins de gens qui paieraient la licence, car il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui y vont parce qu'il y a certaines fonctionnalités dédiées à des entreprises.
Au final, je suis quand même plutôt d'accord, au sens, on commence à avoir une sorte un peu de classification d'entreprises, où il y a des entreprises où, même si, disons, elles ont une version payante, on pourrait se dire, ok, en fait, elles pourraient changer de modèle économique pour pouvoir avoir une version totalement libre et ce serait viable. Mais là, c'est vrai que l'exemple de Mattermost, s'ils font du SaaS, donc du software as a service, au final, le côté confidentialité auto-hébergement, il disparaît. Il n'y a pas beaucoup de support à vendre. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités à développer, des nouvelles fonctionnalités à développer, à faire payer. Parce que de toute façon, avec cette logique-là, ça veut dire qu'il faut toujours plus de fonctionnalités, alors qu'en vrai, ça reste quand même un logiciel de chat, donc il y a quand même une certaine limite. Donc, pour Mattermost, finalement, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, ce qu'on pourrait se dire, c'est imaginer un système qui serait quasiment de même, donc qui pourrait garder la viabilité économique d'une entreprise comme Mattermost, et d'avoir aussi une version payante pour entreprise. En fait, on aurait une licence payante, mais uniquement pour les entreprises, et les particuliers et les associations seraient libres d'utiliser l'intégralité du logiciel. Donc c'est-à-dire que le code serait vraiment ouvert et utilisable, l'intégralité du code, pour n'importe qui, sauf les entreprises. Donc on pourrait argumenter, ça c'est un détail technique, que ça serait pas une vraie licence libre, puisqu'il y a des entités juridiques qui n'auraient pas le droit de l'utiliser tel quel, à savoir les entreprises, mais c'est la même chose que, par exemple, dans les arts, les documents, donc les licences Creative Commons avec une clause non commerciale, donc tout le monde a le droit de l'utiliser sauf pour faire des sous. Mais au moins, elles enlèveraient tous les effets pernicieux de conserver certaines fonctionnalités uniquement pour les entreprises et donc de ne pas profiter à la communauté.
Alors, effectivement, mais je pense que c'est une... je pense qu'on commence à arriver à avoir fait un bon tour d'ailleurs des méthodes de financement auprès d'entreprises pour du logiciel libre, mais je pense que là où des licences Creative Commons sont intéressantes par exemple pour de l'art ou de la culture, parce que les réutilisations frauduleuses ont plutôt tendance à se voir, c'est moins le cas pour du logiciel. En fait, alors je m'explique plutôt dans l'autre sens, ce qui se passerait, c'est que sans doute que pour faire respecter ces licences, ça demanderait des moyens conséquents, et en particulier de réaliser d'importants audits pour vérifier que les entreprises respectent bien ces licences, car on peut d'ailleurs le voir dans le passé, à une époque, je pense que c'est un peu moins le cas maintenant, mais c'était surtout pour des grosses entreprises, elles devaient régulièrement subir des audits complets de la part de grands de l'informatique, généralement comme Microsoft ou Oracle, ou autres d'ailleurs, mais plutôt des géants qui avaient les moyens de le faire. Et au cours de ces audits, ils devaient montrer qu'ils payaient bien les licences utilisées. Et effectivement, par exemple, si on prend l'exemple de Windows, par exemple, alors on ne parle pas de logiciel libre, effectivement, mais la problématique est la même, c'est vérifier que les licences sont bien respectées, même si ce n'est pas un logiciel libre, même pas du tout d'ailleurs. Mais il est très dur en fait de vérifier qu'une entreprise respecte la licence et donc paye correctement si on n'a pas la possibilité de faire un audit, de venir vérifier, etc., combien il y en a qui sont installés, quel usage est fait, etc. Et donc je pense que proposer pour du logiciel libre ce type de licence en espérant que les entreprises payent la licence pour l'usage qu'elles vont en faire, à mon avis, ça ne fonctionnerait pas bien. Et ce qui se passerait, c'est qu'on aurait affaire à des contrôles qui seraient menés par des entreprises privées, qui vont donc choisir exprès les cibles des contrôles en fonction de la possibilité ou non de récupérer beaucoup d'argent, donc c'est-à-dire viser vraiment que des grandes entreprises ou des entreprises où où on sait que elles sont tellement gigantesques que ça sera très dur pour elles de prouver qu'elles font les usages correctement et qu'elles finiront peut-être par payer les amendes. Bref, ça me semble pas franchement un bon modèle. J'admets que c'est dommage de dire que en fait ça revient à dire indirectement comme les gens vont pas respecter les règles, bah autant ne pas mettre en place les règles. Et c'est vrai que dit comme ça, je suis plutôt contre cette formulation, mais malheureusement je pense que ça ne fonctionnerait pas bien, ou que ça ne fonctionnerait que pour des très grands groupes qui auraient des moyens conséquents pour réaliser les contrôles. Ou alors que ça pourrait amener à des déviances, même par exemple, hein, des petites dérives. Par exemple, introduire des bouts de code qui vont vérifier l'utilisation qui est faite d'un logiciel, si on pense qu'elle est commerciale. Et vraiment, je pense qu'on risquerait d'arriver dans quelque chose qui va amener plus de dérives que le modèle actuel, en fait.
Ouais, enfin, honnêtement, maintenant que tu me dis, je suis clairement d'accord avec toi, parce que au même titre que finalement, avant, j'avais dit qu'il n'y avait pas de raison. Une entreprise avec des objectifs de croissance et de l'actionnariat avait pas de raison d'être une gentille entreprise qui allait faire du libre parce qu'elle est sympa. Bah en fait, une entreprise avec les mêmes caractéristiques a aucune raison de pas essayer de gruger en grattant des logiciels libres. Et donc, bah, c'est toujours un jeu du chat et de la souris qui se met en place. Et les jeux et du chat et de la souris dans un cadre tel que celui de la surveillance, bah, on a très bien vu que ce soit dans l'informatique ou non, ça donne des résultats qui sont absolument pas désirables et puis complètement disproportionnés. Donc là-dessus, je te rejoins que ça pourrait être sympa, mais ça me semble quand même être une impasse. Bien, on va peut-être se faire une petite pause musicale avant de reprendre la discussion. Et donc aujourd'hui, on vous a déniché un petit album sur le site Dogmazic. Hein, Dogmazic, toujours un excellent site, n'hésitez pas à y faire un tour. Il y a des éditos tous les mois avec les nouveaux albums et puis des petites notes de tous les bénévoles de l'association, c'est excellent. Donc aujourd'hui, ce sera le morceau Turtleless d'Asperatus. C'est sous licence Art Libre. Bonne écoute et à tout à l'heure. Thank you. retour dans La Voix est libre sur Graphite 94.9. On continue notre émission qui est une sorte de débat pour savoir si c'est vertueux ou pernicieux ou aucun des deux pour une entreprise de proposer un logiciel qui aurait une version libre qui est dite communautaire et une version payante qui n'est pas libre qui est destinée aux entreprises. En particulier, pendant la première partie de l'émission, on a essayé d'évoquer les arguments plutôt en tout cas, qui pourrait créer des effets pernicieux, hein, que ce soit les entreprises qui financent la version entreprise et que la communauté n'en profite pas vraiment. Et on a aussi exploré d'autres modèles économiques qui seraient possibles, donc par exemple une économie du don, plutôt vendre des prestations d'hébergement, de support, de formation sur le dit logiciel pour lui permettre d'avoir une version totalement libre. Et on a fini par conclure que dans des cas de logiciels comme Mattermost, qui est en gros un logiciel de chat très utilisé dans les associations et les entreprises, qu'on a des besoins d'organisation, eh bien c'était très difficile d'utiliser ces autres modèles. Et donc maintenant, dans la fin de l'émission, eh bien on va continuer un petit peu sur cette thématique et voir quels sont exactement les problèmes résiduels dans l'approche d'avoir une version payante qui n'est pas libre, et est-ce qu'on pourrait pas imaginer des manières de les résoudre sans pour autant changer de modèle économique, là où ça paraît compliqué pour certaines entreprises. Alors moi en particulier, j'aimerais revenir sur un point qu'on a à peine évoqué dans la première première partie de l'émission, à savoir le choix des fonctionnalités qui sont libres et qui sont pas libres. Parce que si on admet qu'effectivement c'est les entreprises, les clientes donc par exemple de Mattermost qui vont financer le développement du logiciel et donc par extension de la version libre, bah en fait il y a absolument aucun incitatif à ce que des fonctionnalités stylées soient développées par Mattermost pour la version libre. Parce que ce qui va pousser les entreprises, les clients de Mattermost à payer, c'est justement qu'il manque des choses qui sont importantes pour elles dans la version libre. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on utiliserait l'argent des entreprises pour développer des fonctionnalités libres qui pourraient dans ce cas pousser les entreprises, les clients, à juste utiliser la version libre et à pas l'acheter ? Donc à ce moment-là, il faudrait que, je sais pas, faire confiance à l'éditeur du logiciel, à Mattermost, pour être genre gentil, pour être sympa. Et moi je pense que ça marche pas comme ça, en tout cas de façon systémique, ça marche pas comme ça, parce que les incitatifs économiques, bah, ils prennent très souvent le pas sur la belle morale et sur la gentillesse, ce que sais-je.
Alors très clairement ça, je ne dirais pas le contraire, mais à mon avis ça n'empêche pas quand même qu'un bon choix soit fait sur les fonctionnalités qui vont dans la version libre ou la version non libre. En fait je pense vraiment qu'il y a des fonctionnalités qui en existent vraiment, qui sont très utiles pour des entreprises, mais qui sont pas forcément légitimes ou utiles pour des structures associatives ou de petites communautés. La plupart du temps, ce qu'on revoit souvent d'ailleurs dans ce genre de modèle sur les différents logiciels qui existent, c'est l'intégration avec un annuaire LDAP. Alors rapidement, en gros, c'est un bout de code dans le logiciel qui va permettre de gérer les comptes utilisateurs du logiciel avec l'annuaire de toutes les personnes qui se trouveraient dans l'entreprise. En fait, c'est le rôle d'un annuaire LDAP. Par exemple, c'est ce qui permet peut-être dans votre travail que vous avez exactement le même login et le même mot de passe quand vous vous connectez à votre service d'email, à votre service de partage de documents, aux différents services en fait qui sont dans l'entreprise. Tout ça, c'est géré par donc ce qu'on appelle un annuaire LDAP ou autre, mais c'est la technologie qui est vraiment le plus utilisée pour ça. Et typiquement, l'intégration entre notre logiciel et un annuaire LDAP, c'est clairement le genre de truc qui est très intéressant pour une entreprise, mais qui est souvent beaucoup moins pour de plus petites structures, en fait. On peut penser à d'autres fonctionnalités. Par exemple, des fonctionnalités de monitoring avancé qui permettraient d'avoir des informations exactes sur l'état de santé du logiciel, sur son utilisation, ce genre de choses, ou encore même la possibilité de déployer le logiciel dans un contexte de haute disponibilité, on voudrait une résilience maximum, une fiabilité au top. Typiquement, ça, ce sont des exemples de fonctionnalités qui sont plutôt intéressantes pour des entreprises qui vont avoir des impératifs professionnels et qui le sont beaucoup moins dans d'autres situations. Et typiquement, ces trois fonctionnalités que je viens de citer, c'est exactement le cas de Mattermost, par exemple. Elles font partie de la version payante et donc non libre de Mattermost. Et donc, pour avoir accès à ces fonctionnalités qui sont très intéressantes pour les entreprises, eh ben, il faut payer.
Alors, bon, en ce qui me concerne, moi, je suis d'accord que les trois fonctionnalités que tu as citées, c'est des trucs plutôt réservés à entreprise. Après, on pourrait se poser la question de qui décide que c'est plus intéressant pour une entreprise, mais bon, bah, pas se prendre la tête là tout de suite avec ça. En vrai, je suis d'accord avec toi. Mais dans le cas de Mattermost, hein, qu'on citait, bah, on trouve aussi des fonctionnalités qui sont uniquement dans la version payante, et on dirait vraiment qu'elles sont dans la version payante juste pour faire chier. Par exemple, il y a la possibilité d'ajouter une espèce de bannière d'annonce. En gros, l'idée, c'est que voilà, vous êtes administrateur de votre logiciel Mattermost, hein, donc comme chez Picassoft, et puis on veut prévenir tout le monde qu'il va y avoir une mise à jour, que voilà, pendant 5 à 10 minutes, ça va être la merde, et qu'il ne faut pas qu'il panique, qu'il boive un café, tout ira bien. Bah, en fait, on ne peut pas faire ça simplement parce que la fonctionnalité est réservée aux versions entreprises. Ce qui, par ailleurs, a encore moins de sens parce que, en général, dans une entreprise, on a des canaux de communication pour pouvoir diffuser un message à tout le monde. Alors que nous, Picassoft, on ne sait même pas qui y a sur notre instance. On ne sait pas s'il y a des assos, on ne sait pas s'il y a des entreprises parce que, par design, on ne regarde pas en fait ce qui se passe. C'est justement le principe de Picassoft. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Mais là, se pose bien la question de est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt et de la communauté et de l'entreprise que sont faits les choix des fonctionnalités qui sont libres ou qui ne sont pas libres.
Alors c'est vrai, c'est un très bon exemple que tu donnes, et je pense que c'est, comme tu le dis, un exemple parmi d'autres. Je serais très mauvaise foi même de dire que ce n'est pas souvent aussi comme ça que ça se passe. On peut déplorer régulièrement que l'entreprise qui maintient le logiciel fasse des choix de fonctionnalités, donc de mettre des fonctionnalités dans la version payante, qui sont dommageables pour la communauté, et même de manière plus large, et ça recoupe avec ce que j'avais pu dire un peu plus tôt dans l'émission, on peut déplorer que ce soit un choix donc qui impacte un logiciel libre, qui soit fait par l'entreprise, qui en soi reste une entité qui sert des intérêts privés, même si les intérêts privés en question essayent d'être le plus louable possible, on peut déplorer ça. Cependant, on peut aussi imaginer que la communauté, elle crée un rapport de force avec l'entreprise si le besoin s'en fait sentir, par exemple sur certaines fonctionnalités, mais ça pourrait être sur d'autres choses d'ailleurs, pas que sur le sujet des fonctionnalités payantes. Par exemple, les cas de Mattermost et GitLab sont intéressants. Donc on a parlé de Mattermost. GitLab, c'est un logiciel, c'est l'alternative à GitHub, concrètement, un logiciel qui va permettre, enfin une plateforme en fait, en réalité, qui va permettre d'héberger le code développé pour différents logiciels. C'est une plateforme sur laquelle les gens peuvent contribuer, échanger, reporter le fait qu'il y a des erreurs, etc. Ce genre de choses, quoi. Vraiment une alternative à GitHub. Et donc, ces deux logiciels ont exactement ce modèle-là, même si GitLab fait d'autres choses en mode de financement aussi. Mais concrètement, elles ont une version communautaire et une version payante pour entreprises. Et dans leur cas, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que ce sont des logiciels libres qui ont une communauté importante et autour desquels une communauté très importante s'est formée. Et l'entreprise a eu la visibilité nécessaire pour se positionner comme alternative et vendre des fonctionnalités non libres. On pourrait dire même se positionner sur le marché, parce que c'est donc, encore une fois, la réalité, malheureusement, dans les sociétés, le mode économique de nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'il faut se positionner sur un marché. On peut le déplorer, mais malheureusement, actuellement, c'est comme ça. Et c'est grâce au fait qu'il y ait une communauté importante que ces entreprises, elles ont pu réussir d'une certaine manière, et sans la communauté du libre, ces entreprises, elles n'existeraient peut-être plus, et généralement, en tout cas, je sais que pour le Mattermost, c'est le cas, généralement, ces entreprises le savent, elles savent qu'elles doivent des choses à la communauté, car sans elles, sans cette communauté, elles n'existeraient pas forcément. Un exemple qu'on peut donner, c'est qu'à une époque, Mattermost proposait certaines fonctionnalités dans la version payante, qui relevait de la sécurité, par exemple le fait qu'on peut forcer une politique de mot de passe sur l'instance, c'est-à-dire dire on veut que les utilisateurs qui s'inscrivent sur notre instance aient obligatoirement un mot de passe avec tant de caractères par exemple, forcément une majuscule, ce genre de choses. Donc forcer une politique de mot de passe. C'est une fonctionnalité qui relève donc de la sécurité et qui n'était que dans la version payante. Et le sujet a fait pas mal débat. La communauté a rouspété, et à juste titre, très clairement, la sécurité, elle devrait être accessible à toutes et tous dans un logiciel libre. Et suite à ça, la fonctionnalité, elle a fini par être reversée dans la version libre par Mattermost. Et je pense que de cette manière, ils ont réagi au fait qu'il y avait un rapport de force. Ils se sont dit « Ok, on a fait une bêtise, la communauté, elle n'est pas contente. » on va réparer cette erreur. Et je pense qu'avec ce rapport de force, ça peut quand même contrebalancer, en tout cas permettre d'avoir une sorte de discussion autour des fonctionnalités à intégrer, quoi.
Je vais te faire une réponse qui est à la fois de bonne et de mauvaise foi. Là où vraiment je suis de bonne foi, c'est que je trouve que c'est un peu triste de se dire que c'est un modèle qui tient uniquement que parce qu'un rapport de force existe. Alors, je suis d'accord que les rapports de force sont importants, hein. Il faut toujours qu'il y ait des contre-pouvoirs, des gens qui soient capables de donner leur avis, mais d'une part, c'est pas tellement de projet politique du libre que de créer des rapports de force pour se faire sa place, et puis d'autre part, les rapports de force, ils peuvent s'inverser à tout moment. C'est-à-dire que à un moment, si jamais les principaux contributeurs, on va dire, d'un logiciel libre, parce qu'ils l'utilisent, ce sont les utilisateurs, et que par ailleurs, l'entreprise arrive à vivre en vendant à droite à gauche un petit peu de version payante, là, on a un véritable rapport de force, parce que les utilisateurs sont des aides pour l'entreprise, qui inversement les aident en reversant des fonctionnalités dans la version libre. Mais en revanche, à partir du moment où l'entreprise a son code, hein, à sa base de code, à sa base de clients, et puis fait ses sous avec, finalement, à part d'avoir un énorme shitstorm, un énorme scandale fait de la part des utilisateurs qui soit très médiatisé, ce qui est, à mon avis, extrêmement rare, surtout dans des domaines aussi OSEF pour la plupart des gens que le logiciel libre et la communauté, eh bien, je pense que dans ce cas-là, ça s'inverse et ça donne des plutôt mauvaises choses. Moi, il y a deux trucs qui me viennent en tête, alors c'est pas vraiment du logiciel libre, mais pour celles et ceux qui ont connu le site du zéro, voilà, la base du contenu communautaire complètement sous licence libre, etc. Et puis aujourd'hui, il y a plein de trucs qu'on peut pas les lire sans avoir un compte. La communauté est assez peu écoutée. Quand c'est transformé du site du zéro Open Classrooms, il y a eu tout un débat, plein de gens qui se sont plaints, tous les gens qui avaient co-construit une site, qui ont commencé à dire que c'était pas possible, ils ont jamais été écoutés. Enfin, bref, ça après c'est un autre débat. On peut aussi citer Canonical, hein, la société qui édite la distribution Linux très populaire qui s'appelle Ubuntu. Globalement, ils sont très critiqués parce qu'ils ont l'air d'en avoir à peu près rien à carrer de ce que raconte leur communauté, et que par ailleurs, avec leur partenariat avec Windows et plein d'entreprises, en fait, ils en ont vraiment rien à faire d'écouter la communauté. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun intérêt, à mon avis, c'est là où je suis un peu de mauvaise foi, j'exagère un brin, mais à ce qu'ils écoutent la communauté. Donc pour moi, voilà, se baser uniquement sur l'existence d'un hypothétique rapport de force qui de toute façon est instable, ça me semble pas être une super idée à terme.
Alors, effectivement, dans les deux sens, je pense qu'on trouvera toujours des exemples où le rapport de force a fonctionné et d'autres où il ne fonctionne pas du tout, comme dans plein d'autres sujets d'ailleurs, pas que celui qu'on aborde. Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est dommage qu'il y ait besoin, en tout cas que l'équilibre tienne grâce à un rapport de force. Et pour moi, de toute manière, très honnêtement, c'est la grosse limite actuellement du modèle dont on parle, c'est le choix des fonctionnalités et même au sens large la gouvernance sur ces logiciels libres. Ces logiciels libres qui ont du coup une version payante et qui sont maintenus par une entreprise. Cela dit, alors j'aimerais rappeler deux choses. Déjà, la première, même si ça peut sembler un peu brutal, ça reste un logiciel libre. Si la communauté n'est pas contente, elle peut tout à fait forquer le projet et en construire un nouveau. Alors moi-même, je suis pas tout à fait convaincu enfin, en tout cas, je trouve que c'est pas une solution idéale. Ce n'est jamais vraiment positif quand il y a un fork qui est fait suite à des désaccords sur un logiciel. Mais il y a eu des exemples où ça a bien fonctionné. C'est une possibilité qui existe. C'est ce que permet le logiciel libre.
Je me permets de t'interrompre parce que après, j'imagine que tu vas partir sur autre chose. Mais pour aller dans ton sens, un très bon exemple, c'est OpenOffice et LibreOffice, hein. C'est-à-dire que Apache qui rachète LibreOffice, qui arrête de faire des développements, ça devient de la merde, les utilisateurs en profitent plus, hop, ça part en LibreOffice et puis là c'est incroyable. Donc le fork, c'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas si l'entreprise fait de la merde, oui, les utilisateurs ont le pouvoir de changer le destin du truc. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Voilà.
Bien sûr, j'ai moins l'historique exactement dessus, mais on a la même chose par exemple avec MySQL et MariaDB. Alors je veux pas dire de bêtises parce que je me souviens plus qui a racheté MySQL. Je me demande si c'est pas Oracle, mais peut-être que je dis une énorme bêtise, donc on va dire que je ne sais plus, mais il y a eu un rachat de MySQL, en tout cas une reprise de en tout cas plus qu'un rachat, en tout cas une reprise de MySQL, un fork s'est créé, MariaDB, et aujourd'hui, les gens qui veulent du logiciel libre vont plutôt sur du MariaDB. ou sur du PostgreSQL, mais ça n'a aucun rapport. Ouais, mais
c'est bien Oracle. Hein.
Mais voilà, ok, c'est bien Oracle. J'ai eu un doute pendant une petite seconde. Mais donc, effectivement, il y a des exemples qui existent. Après, moi, je trouve que c'est toujours dommage. Quand il y a des forks, il y a toujours une période où on ne sait pas trop sur quel pied danser, d'une certaine manière. Moi, j'ai trouvé que c'était le cas, par exemple, quand il y a eu le fork de OnCloud, enfin de Nextcloud qui a forké OnCloud. Au début, on ne sait pas trop. En fait, là, il y a des gens qui ont un avis qui est construit sur le fork en question, et il y a des gens qui n'en ont pas trop et qui savent du coup pas trop vers quoi se diriger. Donc c'est jamais forcément positif, mais en tout cas c'est quelque chose qui marche effectivement le fork. Pour terminer, par rapport à la limite du coup que j'admets sur ce modèle, on pourrait imaginer, ça pourrait être une ouverture d'ailleurs là pour terminer, on pourrait imaginer une sorte de coopération démocratique entre la communauté et l'entreprise. Par exemple, instaurer des règles, on pourrait imaginer le fait que toute fonctionnalité développée par la communauté doit être dans la version libre, ou encore que on pourrait imaginer avoir une instance de décision avec l'entreprise, des membres de l'entreprise et des contributeurs de la communauté à égalité de voix, et cette instance, elle permettrait de choisir les fonctionnalités que l'on met dans le logiciel libre ou non. Cela dit, ça reste utopique à ma connaissance. Je ne connais vraiment pas d'exemple de ce genre de fonctionnement, et donc de ce côté-là, tout reste vraiment à construire. Mais ça pourrait être un cadre dans lequel ce modèle deviendrait, selon moi, peut-être pas parfait, mais en tout cas effacerait la plupart de ses limites, quoi.
Franchement, je suis assez, même très d'accord avec ça, dans la mesure où, bon, d'une part, c'est bien de construire des imaginaires et d'imaginer des sociétés utopiques, et qui sont peut-être même les sociétés du futur. De toute évidence, on n'est pas dedans, on peut faire des choses pour essayer d'y arriver. Mais dans la société actuelle, je trouve que ton idée serait vraiment intéressante, parce que finalement, elle reposerait sur un lien de confiance qui serait bilatéral entre l'entreprise et les utilisateurs. Puisque on peut faire confiance, à mon avis, aux utilisateurs pour pas demander d'avoir dans la version libre des choses qui sont, bah, comme on l'a dit, typiquement réservées aux entreprises, comme l'intégration avec un annuaire NDAP, des fonctionnalités de métrologie très avancées, etc. Et en même temps, si jamais ce lien de confiance se crée et que l'entreprise le respecte, et bah, les utilisateurs auront envie de contribuer pour développer des fonctionnalités libres qui les intéressent. Donc on pourrait trouver un espèce d'équilibre là-dedans, et donc effectivement c'est un modèle qui n'existe pas, mais qui pourrait être à tenter. Après c'est sûr que pour les puristes du libre, et moi je suis plutôt un puriste du libre, c'est pas une solution idéale, mais en tout cas c'est une solution qui est vraiment intéressante à discuter. Donc je pense qu'on en arrive à peu près à la conclusion de l'émission.
On va je pas pense aussi, ouais.
Toute la refaire, mais voilà, bon, en gros, on a fait un tour d'horizon des arguments pour et contre ce modèle d'une partie d'un logiciel qui serait payante, et je crois qu'on tombe à peu près d'accord que si le modèle, bah, il n'est pas parfait hein, dans sa version actuelle, et puis parce qu'il est aussi dépendant du contexte économique et social dans lequel on est, bah, c'est peut-être le seul modèle qui permet de se lancer à partir de rien sans être l'heureux élu d'un financement participatif et en pouvant vivre mois après mois du logiciel, en particulier quand les modèles d'hébergement ne tiennent pas. Donc par exemple pour Mattermost, on l'a dit, ils ne veulent pas héberger des instances de leur logiciel, et quand les modèles de support ne tiennent pas, donc on l'a vu pour Mattermost, c'est pas possible. Donc on a quand même tracé des limites à ce modèle, en particulier concernant le mode de gouvernance du logiciel libre, hein. On l'a pas évoqué, mais par exemple il y a des cas pathologiques où il y a des utilisateurs qui développent des fonctionnalités qui sont super utiles pour tout le monde, et puis qui sont juste refusés par l'éditeur, tout simplement parce que ils se disent non, nous on préfère les développer nous-mêmes et les mettre dans la version payante, voilà. Mais donc, en tout cas, en somme, c'est un mode de financement du libre parmi d'autres. Comme chacun, il a ses avantages et ses inconvénients, et en tout cas, il pourrait être amélioré dans le paysage économique actuel. Je sais pas si Kian, tu as des trucs à rajouter.
Bah, je suis assez d'accord, je pense que c'est un bon résumé. J'espère qu'on a su retranscrire au mieux la discussion qu'on a eue à Picassoft il y a quelques semaines. Et voilà, alors des fois en forçant un peu le trait, en jouant un peu des rôles, mais je pense qu'on a fait un bon tour de ce sujet. Reste à le faire maintenant pour tous les modes de financement du libre existants. Donc on a des émissions pour les 16 prochaines années, c'est ça?
C'est exactement ça. Bon, en tout cas, j'espère que ce format un peu expérimental de débat, discussion vous aura plu. Nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à le faire parce que c'était super stimulant et ça m'a donné personnellement plein d'idées. Du coup, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission et puis un petit résumé sur le site radio.picassoft.net. Bonne semaine, bon courage à tout le monde pour les semaines particulières qui s'annoncent et puis à la prochaine. Salut!
Ciao, ciao!